Oui. Alors, j'avais d'abord une petite remarque à Monsieur Plat. Moi, je travaille sur Rhône-Alpes, en fait, ce qui représente, j'inclus la Haute-Loire, donc ça représente 10 départements. Je commence ma thèse sur les justes et le sauvetage en Rhône-Alpes. Et à ce titre, les cérémonies organisées sur un jour ou plusieurs jours ont lieu en ce moment. J'aide Monsieur Delpal à, dans le cadre du village de Dieulefi, à monter en fait le dossier pour Yad Vashem sur Dieulefi, ce qu'il est, enfin les Juifs sauvés à Dieulefi, dont Vidal Naquet, hein, puisque Vidal Naquet y est passé, aimerait que Dieulefi reçoive au même titre que le Chambon le titre de village sauveteur, en fait. Il y a eu aussi une cérémonie d'un jour à Plat, dans l'Ardèche, à l'été dernier, pour honorer une religieuse, en fait, originaire de Plat. Donc, ces cérémonies aussi se multiplient en région Rhône-Alpes. D'accord. Voilà, à titre comparatif. En ce qui concerne Monsieur Boukara, en fait, il y a quelques policiers dans la région Rhône-Alpes aussi qui ont reçu la médaille de juste. Et très souvent, ils appartiennent aussi au réseau NAP. Voilà, donc on retrouve ça. Je pense par exemple à Julien Azario à Lyon, qui lui a été dans le commissariat du 5e arrondissement, qui faisait partie du réseau NAP, qui a œuvré envers la communauté juive en réalisant des fausses cartes d'identité. Il en a réalisé quantité dès 1941. Donc lui agit avant les rafles de 42. Et ce qui est étonnant avec ce personnage, c'est qu'on rencontre ce personnage avant la guerre. Et il est chargé à Lyon, pendant l'entre-deux-guerres, de traquer les Algériens à Lyon, les Algériens politisés de Lyon. Et ce qui ne lui pose aucun problème, on a beaucoup de témoignages sur cette période, il prend son travail vraiment à cœur. Et à l'inverse, quand la guerre éclate, il s'engage très rapidement dans le sauvetage de la communauté juive. Donc c'est vrai que ses parcours policiers sont très, très intéressants. Et j'aimerais savoir si vous avez aussi œuvré sur les gendarmes et sur la maréchaussée. Parce que c'est ce que j'expliquais hier à certaines personnes. En fait, je m'intéresse vraiment au ras des pâquerettes, moi aussi. Je travaille sur le terrain, je fais des micro-enquêtes. Et les gendarmes, en fait, interviennent très souvent dans le cadre des villages. Et la maréchaussée dans les villages, c'est tout ce qui se passe. Rien ne lui échappe. Ils sont parfaitement conscients de la présence d'étrangers, justement, de personnes qui ne sont pas habituelles dans ce village. Et très souvent, les gendarmes informent. Alors, c'est vrai, c'est juste une phrase, on informe, la population que le lendemain il y aura une rafle ou une descente allemande. Mais j'aimerais savoir s'il y a des travaux engagés sur la gendarmerie en ce moment en France ou à l'étranger. Voilà.
Il y a un livre intéressant de Didier Eppelbaum intitulé « Obéir » sur les gendarmes de Drancy, hein, les déshonneurs du capitaine Vieux, Drancy 41-44, puisqu'à Drancy, il y a eu des comportements particulièrement choquants des gendarmes français. Et justement, il met en regard de ce capitaine Marcelin Vieux qui a obéi de manière désastreuse, le capitaine Robert Richard, qui lui, au contraire, s'est très bien comporté. Il fait des contrastes très, très saisissants. Et maintenant, il commence à y avoir des travaux intéressants. D'ailleurs, c'est assez étonnant. Il y a plus de travaux aujourd'hui sur les gendarmes qui ont désobéi que des travaux sur les gendarmes qui ont obéi. Il y a un déséquilibre flagrant dans la recherche. Ce sont souvent c'est le service historique des armées, vous savez, qui est bien organisé, qui commande des travaux sur les bons gendarmes, quoi.
Il y a maintenant même une exposition, je crois.
Donc il y a beaucoup de choses sur eux, mais il reste encore à équilibrer le tableau. Alors il donne une bibliographie Eppelbaum à la fin de son ouvrage sur la gendarmerie pendant la Seconde Guerre mondiale. Hein, si vous voulez regarder, c'est un livre disponible, quoi. Et puis alors, juste un mot aussi sur les c'est clair que les gendarmes ont des listes des juifs qui habitent leur village. Donc lorsqu'ils utilisent les listes, ça a des effets très concrets. Mais lorsqu'ils décident de ne pas utiliser ces listes, c'est une manière indirecte et passive de laisser vivre, de laisser survivre les gens. Les listes sont là. Mais c'est pour ça que Serge Klarsfeld aime bien faire remarquer que la délation n'a pas joué un rôle majeur pendant cette époque, puisque la police n'avait, ou la gendarmerie n'avait pas besoin des délateurs pour arrêter les juifs. La plupart du temps, ils avaient des adresses précises. Et donc, ne pas les arrêter était déjà en soi un choix implicite. Hein, voilà.
Oui, je vais aller dans le même sens pour la région de Limoges, hein, pour la région de Vichy. Les gendarmes sont tous plus ou moins apparentés aux gens du CRU. Il y a un réseau de parentèle complexe. Donc on a dans la famille, alors c'est le cas pour la Creuse par exemple, qui est très, très bien étudiée, deux institutrices qui sont juste, les sœurs Payassou, si j'ai bonne mémoire, c'est des institutrices, vous savez, qui scolarisent les enfants des maisons d'enfants de Lozé, qui sont particulièrement nombreuses et importantes en Creuse, et qui se retrouvent, je crois que c'est en 42, avec un taux de réussite au certificat d'études qui est tout à fait remarquable pour toutes les enfants étrangères réfugiés, c'est-à-dire que les 14 premières sont des Roumaines, des Tchèques, etc., ce qui fait que l'inspecteur d'académie s'en étonne et finit par fermer l'école, hein, d'ailleurs, et par faire scolariser les enfants à l'intérieur du home de Lozé. Mais peu importe, leurs deux beaux-frères sont des gendarmes. Et la maison n'a jamais été autant protégée que par ces deux gendarmes qui, au fond, avertissent constamment leur belle-sœur des descentes à venir, etc. Ce qui permet au directeur des hommes de planquer les enfants, de les répartir la nuit dans le parc. Et le lendemain, les gendarmes ne trouvent évidemment personne. C'est ce qui explique d'ailleurs qu'à un moment donné, les autorités policières, comprenant le système, vont faire les descentes par d'autres policiers, c'est-à-dire vont contourner l'inertie de la gendarmerie par des agissants beaucoup plus actifs, et qui, eux, n'avertissent pas et ne font pas savoir.
Est-ce que je peux ajouter un petit mot sur ce que tu viens de raconter ? Là, on est en train d'aborder de manière assez approfondie la question des justes, qui est bien sûr une grande question de mémoire et d'histoire, mais il y a un certain décalage entre les débats internes à la communauté juive et les débats de l'opinion publique française. Souvent, il y a des 5 ans ou 10 ans de décalage. Un des grands problèmes qui travaille depuis maintenant au moins 20 ans la communauté juive en France et dans beaucoup d'autres pays, c'est l'expérience des enfants cachés qui ont vécu des enfances très difficiles et très perturbées, à la fois qui physiquement ont été sauvés, mais qui psychologiquement ont été meurtris. Et donc dans le récit que tu viens de faire, la bonne nouvelle, c'est que grâce aux gendarmes, on a pu mettre à l'abri ces enfants en les sortant en catastrophe de la maison. La mauvaise nouvelle, c'est que ces enfants-là, aujourd'hui, ils ont 70 ans, 75 ans, mais ils racontent que à plusieurs reprises dans leur enfance, on les a réveillés en pleine nuit pour les mettre quelque part. Et donc ça, c'est des choses beaucoup plus intimes, moins spectaculaires. Mais il y a la question du sauvetage physique, et puis après, il y a la question de la souffrance psychologique. Évidemment, c'est pas celle des déportés dans les camps, mais justement, après la guerre, il y a eu une sorte de censure à propos de cette souffrance-là, parce qu'elle était moins dramatique, entre guillemets, si on pouvait mesurer les souffrances. Mais pour un enfant qui souffre, il ne sait pas que sa souffrance est peut-être moins grave que celle d'un déporté. Hein.
Voilà. Mais ces maisons de Lozé, je rajouterais juste, lorsque vous mettez 400 enfants dans les hommes de Lozé, que vous mettez 4 hommes, mettons, par département, ça fait quand même 1600 enfants, plus une pouponnière qui va prendre les tout-petits. Ça implique un nombre de gens locaux qui vont travailler pour les maisons qui est considérable. Prenez par exemple les lingères. Les lingères, ça va être des dames de la campagne qui vont trouver donc un appoint de travail, qui vont s'attacher aux enfants, qui les connaissent bien, qui en rentrant chez elles en parlent à leur mari, à leurs enfants, à leurs beaux-frères, à leurs cousins, etc. Et c'est au fond toute la famille qui est en empathie très rapidement. Donc lorsque vous multipliez le nombre d'employés des maisons de Lozé avec le nombre d'enfants qui sont là, vous obtenez une communauté de protection, enfin je vais l'appeler comme ça, enfin c'est pas vraiment de protection, mais une communauté d'empathie qui est énorme.
C'est... Tout à fait. Alors tout à fait, je suis très très content que vous employiez ce terme, parce que justement dans mon schéma mental, j'ai commencé... Il y a pour moi un autre cercle qui est encore plus large, qui est effectivement cette communauté d'empathie. C'est simplement qu'on arrive à repérer tous ceux qui étaient en contact et qui savaient très précisément ce qui se passait. L'infirmière, ou quand il y a des accouchements, donc où on va faire accoucher des femmes juives dans tel endroit, etc. Donc il y a tout un certain nombre de personnes qui ont là des renseignements bien précis, qui ne disent rien et qui font en gros leur possible pour que les choses se passent bien. Oui, qui est une communauté d'empathie et qui a à voir après avec ce qu'on peut dire sur l'état de l'opinion par rapport à cette question et qui est à prendre en compte. Alors c'est vrai que c'est difficile d'avoir des démultiplicateurs. Hein,
bien sûr.
Mais vraiment, je crois qu'il faut le prendre en compte.
Jean-Marc Abdé, je suis enseignant, je viens de Perpignan. Je suis avec deux étudiantes ici avec qui je travaille depuis 2 ans.
Oui, rajoute que tu as beaucoup travaillé sur le camp.
J'ai beaucoup travaillé sur le camp de Ruzal. Je continue. Bon. Moi, je vous écoute avec beaucoup d'attention parce que, en travaillant sur le camp de Rivesaltes, évidemment, je me suis intéressé à l'environnement local, au contexte local, à toutes les questions qui relient ce camp à de nombreux sites. Et l'échelle départementale, je la trouvais pertinente parce qu'il y a un préfet qui domine ce département, qui transmet les ordres de Vichy, qui s'intéresse à la vie du camp, etc., qui donne des ordres aux commissaires spéciaux qui sont dans tout le département. C'est un département qui possède une frontière avec l'Espagne. Sur ce département, il y avait de nombreux camps, beaucoup de juifs. Il y avait des gens placés en résidence surveillée. Il y avait des hommes d'enfants. Bref, il y a toute une géographie du contexte de l'époque. Et quand on regarde le nombre de justes, on est surpris par le déficit.
Oui, oui, c'est vrai.
Le faible nombre. Alors quand on tombe en présence d'un nombre relativement important, on a tendance à dire que les valeurs humaines, que l'empathie, que les relations humaines les plus normales ont provoqué, favorisé et finalement permis toute cette série de sauvetages. Mais quand on va vers un chiffre exceptionnellement bas, dans un département où il y avait apparemment beaucoup de raisons de se rendre utile ou de faire un geste, là on ne peut plus évoquer les mêmes raisons, parce que je ne pense pas qu'il y ait un département plus courageux ou plus humaniste ou plus valeureux que notre. Donc à mon avis, s'il y a des raisons politiques, économiques, sociales, logistiques, etc., pour expliquer la faiblesse ou le déficit de nombre, on devrait pouvoir aussi peut-être trouver d'autres raisons pour expliquer l'inflation alors ou le surnombre. Quoi. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire? Si dans ce gradient, on arrive à déceler à un moment donné une situation exceptionnellement basse, voilà, c'est cette approche sur le nombre, la répartition...
Oui, mais il y a un facteur qu'il faut... C'est un système triangulaire, en fait, pour qu'on comprenne comment fonctionne. J'ai jamais dit que le nombre de justes est un bon repère, au fond. C'est un thermomètre comme un autre, mais c'est un système triangulaire. La pointe sommitale implique qu'il y ait une initiative, un déclencheur de la demande de justes. Et si vous n'avez plus les déclencheurs, vous n'avez même plus les demandes. Alors ça peut être ça le problème.
Il y a la partie constitution de dossier et puis voilà. On provoque une demande et une enquête, puisqu'il y a enquête. Bon. Mais il y a la partie intérieure qui à l'époque, qu'est-ce qui s'est passé quoi?
Oui, mais si on prend comme unité de mesure, effectivement, le nombre de justes, ce que vous dites, c'est au fond, il y a très peu de justes dans le département des Pyrénées.
À mon avis, le nombre est assez faible par rapport.
Est assez faible.
On c'est avait eu quelques échanges avec Corinne au sujet de la question des justes en Haute-Savoie. Je trouvais intéressant d'avoir cet échange parce que la Haute-Savoie, frontière avec la Suisse, la Haute-Savoie avait des relations par l'intermédiaire des transferts avec les Pyrénées-Orientales. Bon, et puis alors, quand on fait une comparaison, et après, une fois que la comparaison est faite.
Oui, mais alors, y a-t-il des porteurs de mémoire? Alors, on va dire... vous savez, ces figures, c'est celles qu'évoquait Corinne tout à l'heure, vous avez la quantité de départements, des gens qui font un travail inouï, constant, remarquable. Je vais le dire comme ça. Mais c'est-à-dire qu'ils sont au charbon tous les jours pour faire émerger ce type de mémoire. Bon, et vous avez des départements où il n'y en a pas. Ça, c'est vrai. Bon, mais vous avez ensuite une structure d'internement qui est considérable. Enfin, Rivesaltes, c'est considérable. Est-ce qu'il y a dans... la géographie, justement, de périphérie, de réelles possibilités de dissimulation ou de...
C'est un département excessivement rural, avec des vallées isolées, avec des villages parsemés.
Certes, non mais je suis d'accord avec vous.
Si le facteur de ruralité est important, on est gâté.
Mais est-ce qu'on a les mêmes chiffres, par exemple, pour l'accueil des républicains espagnols, etc.
Alors, c'est un département qui a connu plusieurs vagues de souffrance.
Oui.
Des premiers mois de 39 jusqu'au dernier mois de l'année 44, mais est-ce que ceci pourrait expliquer cela? Mais voilà, je suis dans la recherche de...
Moi je vais vous donner une
cause.
La Haute-Vienne a un camp, alors c'est pas Rivesaltes, on est bien d'accord, mais quoi qu'il soit en relation avec là, c'est Nexon.
Nexon, oui.
Qui, à l'intérieur même de l'enceinte de Nexon, a des bâtiments pour les Juifs et qui, au moment de la rafle de 42, est un point de départ important. C'est vrai que dans cette partie du département, il y a très peu de justes.
D'accord. Et une fois que ce constat est fait, comment...
Eh bien, comme si la structure elle-même, et par sa force de coercition, plombe, fige aussi, à mon avis, mais c'est une hypothèse, hein, simplement.
Donc, on pourrait avoir toute une série de facteurs explicatifs, et pour, entre guillemets, un certain déficit, et pour, entre guillemets, oui. un certain nombre.
Non, moi, je ne serais pas surpris de voir qu'on a des, dans la région centre-ouest, de grands espaces peu peuplés et relativement isolés, où il n'y avait en plus pas de camp d'internement. Donc, dans ces cas, c'est des endroits typiquement susceptibles d'accueillir des gens qui veulent échapper à la persécution. Et inversement, là où il y a camp d'internement, il y a forcément peu de survivants. Dans le cas de Rizal, malheureusement, il y a très peu de gens qui sont passés par là et qui ont survécu du côté juif. Hein. Donc, il y a forcément très peu de gens qui peuvent vouloir honorer des juifs. Ça me choque pas, ce contraste me paraît logique.
C'est la forme de l'internement ici qui est terrible.
Il faut pas tout ramener au camp de Rivesaltes, parce que c'est vrai que si c'est un camp de portée nationale, il y avait d'autres situations autour, pour les juifs. Hein.
Oui, moi je crois qu'en même temps, en fait, toute la question qui se pose, là, c'est de savoir si effectivement le nombre de justes est un, vous disiez, c'est un thermomètre comme un autre, mais est-ce que même c'est un thermomètre, voilà, moi je n'en suis pas sûr, parce que quand même, si on compare avec ce qui s'est passé dans d'autres pays, bon, ben, on voit que la Pologne, les Pays-Bas, etc., vont avoir un nombre de justes bien avant la France qui commence, enfin, le nombre de dossiers de façon importante émerge avec 10-15 ans de décalage. Donc si on avait fait des premières conclusions à ce moment-là, on aurait dit, ou même sur certains départements. Moi, je parlais de ce Herbert Hertz, parce qu'en ayant accès à ses archives privées, on voit, mais le nombre de lettres, ils bombardent les responsables à Yad Vashem, la commission, etc., pour dire, mais activez-vous, est-ce que vous attendez qu'ils soient tous morts pour remettre les médailles, mais je vous ai déjà envoyé assez de... Et quand il en a pas, il écrit partout, il fait paraître des annonces dans tous les journaux pour dire il faut retrouver des témoins. Et sur ces 100 justes, de mémoire, c'est lui qui a dû instruire et faire aboutir 60 dossiers. Bon. Alors, donc là, on a un facteur. Alors, je ne sais pas, justement, moi, dans la structuration, si tout le territoire a été couvert par des enquêteurs.
Non.
Ça serait à voir.
Non, je pense pas. Non,
je pense pas. Non. Alors, si tout le territoire n'a pas été couvert par des enquêteurs de ce type, là, en plus, on a toute cette génération, soit d'enfants cachés plus tard qui se mettent eux-mêmes à devenir des investigateurs, soit de juifs qui sont très jeunes au moment de la guerre, mais qui survivent et qui vont entreprendre ce travail. Mais si on n'a pas effectivement ces entrepreneurs, voilà. Donc je suis pas sûre. C'est à explorer, c'est à continuer à explorer. Voilà. Je ne sais pas si le thermomètre nous dit quelque chose sur la prosopographie. Je suis tout à fait d'accord avec ce que disait mon voisin. Je crois pas qu'on puisse faire de la prosopographie parce qu'il faut comparer chaque fois. Enfin bon. Donc là, on peut pas. Ça nous dit des choses. Il y a des choses intéressantes dans ces archives, mais voilà. Il y a aussi des limites. Il y a aussi des limites. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Alors, est-ce que le micro peut repartir? Alors, ça sera peut-être la dernière question avant la pause. Il y aura une pause de 10 minutes, le temps qu'Emmanuel de Bono puisse installer ce qu'il veut faire, etc.
Donc, ma question s'adresse un tout petit peu à vous trois. Je vais volontairement la poser de manière très générale et en montrant très étriqué, en fait, dans la manière de la poser. Vous avez dit, Corinne, tout à l'heure que les justes étaient un élément de la diplomatie israélienne. Mais n'est-ce pas non plus un élément des diplomaties de tous les pays qui peuvent se targuer d'en avoir? Et ça en sens en même temps les villages, les familles. C'est vrai que je travaille actuellement sur un juste. Quand je rencontre sa famille se considère comme étant juste aussi. Puisque il y a ce rapprochement qui est fait, il y a un dossier de juste dans la famille, donc toute la famille le devient. C'est valable également pour le village, pour le pays, de fait. Donc je comprends parfaitement cette rupture après le discours de Chirac et l'année des justes. À côté de ça, je voudrais juste, ça c'est une remarque et j'attends derrière que vous puissiez m'apporter quelques éclairages, cette espèce de prépondérance des justes aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est un pan pour traiter la Seconde Guerre mondiale, on l'a traité pendant très longtemps en occultant, en ne regardant et en encensant la résistance, mais en occultant toute cette période vichyste, en la traitant en tant que parenthèse, tout simplement. Et on voit que la Pologne, vous l'avez cité également, monte des dossiers de juste très rapidement, mais en même temps, est-ce que la résistance en Pologne n'est pas plus faible que celle qui fut en France? Est-ce que cette forme... Les Pays-Bas, surtout. Aussi, peut-être les Pays-Bas. Mais cette forme de, d'encensement des justes n'est-elle pas, en fait, là pour compenser, pour venir ramener l'honneur du pays en même temps que la résistance, si on la compare?
Premier élément, lorsqu'il y a eu des tensions entre Jacques Chirac et Ariel Sharon dans les années 2004-2005, la diplomatie française a monté une grosse campagne de communication aux États-Unis sur les justes français, justement, pour indiquer à l'opinion publique américaine qu'en France, il y avait eu beaucoup de braves gens qui avaient aidé les Juifs. Et donc, sous-entendu, la France n'était pas un pays de tradition antisémite, mais plutôt un pays de tradition amicale envers les Juifs. Donc, il y a des enjeux diplomatiques, effectivement, de multiples. Et effectivement, la Pologne a besoin aujourd'hui de montrer qu'il y a eu beaucoup de Juifs polonais pour corriger, rectifier d'une image de marque relativement négative. Donc ça, c'est effectivement, c'est encore une autre forme de travail de mémoire, la rencontre entre la mémoire et la diplomatie. Quoi. Donc vous voyez, on parlait tout à l'heure des diplomates pendant la Shoah. Là, c'est les diplomates aujourd'hui à propos de la Shoah, ce qui est encore un autre volet. Je précise qu'en Israël, les gens qui font qui examinent les dossiers de juste Yad Vashem sont en général des gens venus de France qui étudient les dossiers français. C'est-à-dire des gens qui sont assez érudits sur l'histoire des Juifs de France pendant la Shoah. Lucien Lazare, qui est actuellement co-président de l'ensemble de la commission des justes, est lui-même un jeune résistant juif en France pendant la guerre. Et à chaque fois, donc, on fait examiner les dossiers par des gens qui connaissent bien le pays, qui connaissent la langue du pays, qui sont, en général sont originaires du pays. Et ça fait partie des complexités de cette histoire, qu'il y a en Israël beaucoup de résistants juifs français qui se sont installés là-bas, soit parce qu'ils étaient sionistes pendant la guerre, donc ils ont réalisé leurs idées sionistes en allant vivre là-bas, soit ils sont devenus sionistes par la suite et donc ils ont décidé à la retraite, par exemple, d'aller vivre en Israël. Il y a une association des résistants juifs de France en Israël, qui est aussi active que l'association des résistants juifs en France. Hein, et d'autre part, il y a une association des enfants cachés juifs de France en Israël, qui est très active, qui d'ailleurs joue un rôle, Pascal les connaît bien, parce qu'il publie un petit journal très intéressant, où ils échangent des informations sur les circonstances dans lesquelles ils ont survécu, parce qu'ils étaient tellement petits que souvent, il leur manque beaucoup d'informations. Ils échangent entre eux, ils mutualisent les informations. Il existait une association comme celle-là en France même, mais sauf qu'elle a disparu. Et c'est un phénomène intéressant que, en France, les anciens enfants cachés n'ont plus trouvé l'énergie de continuer leur vie associative, alors qu'en Israël, au contraire, cette association fonctionne bien et elle est en train de se pérenniser avec les enfants d'enfants cachés, ce qui n'a pas été possible en France. Hein. Donc, il faudrait se demander pourquoi. Il faudrait lire la collection de ce journal. Enfin, ce sont des travaux de sociologie, en fait, très intéressants.
Oui, c'est ça. Oui, c'est leur petit bulletin est en hébreu d'un côté, en français de l'autre. Il faut le... Il y a un certain nombre d'établissements qui le reçoivent, hein, de bibliothèques. Oui, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Mais il ne faut pas non plus tout instrumentaliser. Moi, je vais vous raconter une anecdote assez amusante. Lorsque le demandeur n'est pas la personne cachée, par exemple. Oui. Ça, c'est un autre cas de figure. Moi, j'ai reçu un coup de fil il y a environ un mois de quelqu'un qui rentrait de l'étranger après 20 ans passés, je ne sais plus où, et qui reprenait la maison parentale. Et c'est une vieille maison, alors une maison bourgeoise, vous savez, de campagne, avec un parc, etc. Et en faisant faire des travaux, il découvre ce qui était manifestement une cache. L'une des statues du parc bougeait, c'était un système extrêmement bien fait, et dessous se trouvait une cache. Et à l'intérieur de la cache, des papiers qui appartenaient à une famille juive. Donc voilà quelqu'un, une famille qui avait fait faire une cache à grands frais, parce que, enfin, je veux dire, on fait pas ça comme ça, dans une mémoire familiale complètement oubliée et qui n'avait qu'une idée, c'était retrouver les gens qui avaient pu être cachés ici. Bon, alors on a fait une enquête, fait un gros travail d'historien. Hein. On les a retrouvés en Allemagne et cette famille allemande, donc les descendants des cachés, vont faire une demande de juste. C'est pas une instrumentalisation, c'est... Je sais pas comment il faut appeler ça, mais...
De son patrimoine, si c'est pas la famille, c'est pas les gens, ça reste le patrimoine qui est mis en valeur à ce niveau.
Oui, mais il y a personne derrière pour instrumentaliser ça. On n'est pas dans un jeu d'instrumentalisation de pays, d'État, de politique, etc. C'est une forme de retrouvaille due au hasard. Je vais le dire comme ça. Ça aurait pu ne jamais arriver. Et c'est une rencontre après 60 ans d'absence qui me semble très honnête au fond, très naturelle.
Oui, non, moi je suis assez d'accord, il y a des parts de hasard. Alors je pense que c'est Sarah Gainsbourg, alors je ne sais plus si c'est dans un chapitre, l'article, je ne sais plus, mais en tous les cas quand même sur les dossiers français, ce qu'elle montre aussi, c'est la volonté de juifs français très actifs dans le montage des dossiers de changer l'image de la France par rapport à Israël. Donc je ne vais pas dire qu'il y a une instrumentalisation, mais il peut y avoir...
Non, il peut y avoir des arrière-pensées.
Et d'autre part, par rapport à la question que vous posiez, qui est peut-être plus générale, c'est de savoir si dans le cycle mémoriel, alors si on reprend ce que Henri Rousseau a fait en trois étapes, est-ce qu'on est dans une quatrième phase de ce cycle mémoriel, et est-ce qu'après le rejet, l'enfouissement, l'amnésie, l'émergence, deuxième phase, et puis l'obsession mémorielle, mais là c'était par rapport à Vichy, à ce chemin, est-ce que la figure du juste permet à la fois, justement, j'allais dire, de sortir de l'obsession de la culpabilité sans retomber dans le mythe résistentialiste sans dire oh oui ça a été tout le monde a été et est-ce que voilà est-ce que c'est pas une sorte de quatrième phase qui serait marquée puisque effectivement vous avez beaucoup insisté quand même sur ce qu'il y a autour de ces mises en scène de le fait que les autorités préfectorales municipales participent le fait Marianne moi ça m'a frappé quand même
donc je pense
il se passe quelque chose que par rapport à ce cycle mémoriel et là dans cette troisième phase d'obsession de la responsabilité de la culpabilité etc. peut-être que ça amorce effectivement une quatrième phase bon à titre d'hypothèse voilà. Oui. Mais le schéma d'Henri Rousseau a prétention, alors après on peut discuter beaucoup parce que ça a été appliqué à d'autres mais de dire qu'éventuellement c'est un schéma très général d'enfouissement parce qu'il y a les Espagnols réfléchissent sur la guerre civile pour voir si justement on n'est pas actuellement dans la troisième phase qui est celle de l'obsession mémorielle bon enfin